Voilà, bonjour à tous. On est très content d'être là pour ce dimanche, même si le temps, c'est vrai que cette semaine, on a été bousculé, on est arrivé dans le vrai hiver québécois, hein, avec une belle bordée de neige. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de neige ici au Québec. Les gens sont satisfaits quand il y a la neige l'hiver, certains d'autres pas, mais ça fait partie de la culture québécoise. Ce matin, on va continuer un peu sur le thème justement que nous avons commencé à aborder durant ce mois de janvier. Comment être à l'écoute de Dieu? La semaine passée, on a vu justement l'importance de pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu. On a vu aussi les obstacles qui nous empêchent des fois d'entendre la voix de Dieu. Et il y en a plusieurs et on doit toujours être discerné si justement peut-être il n'y a pas quelque chose qui nous empêche d'entendre réellement ce que Dieu veut nous dire. Ce matin, nous allons voir les façons ou les manières que Dieu nous parle. On a vu durant le temps de jeûne et prière que oui, Dieu nous parle de différentes manières. Et ce matin, on va simplement regarder quelques aspects. Derrière, je vous ai mis aussi des petites notes, un petit papier si vous voulez écrire, parce qu'on va aussi partager différentes textes bibliques, parce qu'on va voir comment que Dieu nous parle justement à travers la parole de Dieu. Et voilà pourquoi qu'on a besoin de noter les textes pour qu'on puisse nouveau après les méditer, les revoir durant la semaine. Même pour ceux qui sont en Zoom, je vous encourage à noter afin de pouvoir continuer cette réflexion durant ces prochaines journées. Nous disons toujours que Dieu est un Dieu personnel et on va voir comment qu'aujourd'hui, justement, Dieu est un Dieu personnel parce qu'il parle de différentes manières. On va le voir à travers des textes bibliques, mais on va voir aussi que Dieu nous parle aussi à chacun de nous. Alors, on veut simplement que nos oreilles puissent être attentives à ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Durant le temps de jeûne et prière, on a vu le texte de Job, chapitre 33, verset 14. Job, chapitre 33, verset 14, qui dit: Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière et plutôt tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est vrai que souvent, si on ne fait pas attention, Dieu veut nous parler, mais nous ne sommes des fois pas disponibles. Souvent, Dieu veut utiliser différentes manières pour nous parler, et des fois, il a besoin d'utiliser plusieurs manières parce qu'on veut pas, qu'on n'arrive pas à comprendre la première fois. Alors, Dieu utilise d'autres façons pour nous faire comprendre ce qu'il aimerait nous dire. Et c'est le défi, justement, que jour après jour, on arrive à entendre la voix de Dieu. Comme on a dit, on puisse être, si on est là même depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, on a toujours ce défi d'entendre la voix de Dieu. On peut, c'est vrai, être plus habitué à comment que Dieu nous parle. On va voir que des fois, Dieu nous parle plus d'une manière que d'une autre. Mais si on ne fait pas attention, si on n'est pas attentif, même si on est de l'expérience chrétienne, on va voir que aussi, que Dieu nous parle, mais que nous n'entendons pas parce que nous ne sommes pas présents. Nous avons vu que Dieu nous a laissé dans sa parole, donc dans la Bible, qui a été inspirée par le Saint-Esprit par plusieurs auteurs. Ces différentes paroles qu'on retrouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament nous racontent l'histoire de comment que Dieu veut ce contact, veut cette relation avec les humains. On le sait que dans l'Ancien Testament, il a choisi un peuple, le peuple Israël, pour être son peuple, pour pouvoir parler à ce peuple, pour pouvoir leur dire ses directives. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, maintenant, nous avons accès, tous accès à Dieu. Dieu veut tous nous parler à travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour que nous puissions comprendre, saisir ce qu'il veut nous dire. Donc, on voit que Dieu parle aux gens par l'entremise de la Bible de deux manières différentes. On le voit premièrement universellement, c'est-à-dire à tout le monde. La plupart des textes qui sont écrits dans la Bible sont pour tous. Par exemple, Dieu a donné ses lois et ses commandements pour toutes les personnes de son peuple qu'il avait choisi. Puis on sait que Jésus, justement, par exemple, dans le sermon sur la montagne, s'adresse à tous ceux qui veulent l'entendre. Et le deuxième point, comment que Dieu parle à travers la Bible, c'est personnellement, à des individus, avec des messages spécifiques pour une situation peut-être spécifique et à des moments aussi spécifiques. Donc Dieu parle à des hommes et des femmes personnellement pour leur dire un message qui s'adresse à eux. Rappelez-vous l'appel de Moïse avec le buisson ardent, hein? Comment que Dieu l'a interpellé à un moment spécifique lorsque Moïse passait sur la montagne. Comme vous le savez, la Bible a été écrite il y a plus de milliers, il y a des milliers d'années. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les textes qui sont écrits dans la Bible, est-ce qu'ils peuvent encore s'adresser à moi? Est-ce que Dieu peut utiliser la Bible, les textes écrits, les Écritures, pour tous ou universellement, pour me parler à moi spécifiquement? Est-ce que je peux recevoir une réponse à une question que je pose à Dieu, à travers la parole de Dieu? On va voir que oui. C'est pour ça que nous disons que la parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle n'est pas juste un livre écrit il y a plusieurs milliers d'années, mais c'est une parole qui agit encore aujourd'hui. Elle nous parle encore à nous tous. Elle nous parle aussi à chacun de nous d'une façon spécifique. Alors regardons justement, dans la parole de Dieu, le mot « parole » en grec, il y a deux significations en grec. Logos et rhéma. Logos, premièrement, on le voit que logos est utilisé en deux façons différentes dans la Bible. La première, elle est personnifiée et appliquée à Jésus. On le voit dans Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1 qui dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Si on lit juste ce verset, on voit que la parole de Dieu était là depuis le début, depuis le commencement. Que cette parole était lui-même Dieu. Mais on ne comprend pas trop forcément la pensée de Jean à ce moment-là, de ce qu'il veut dire. Mais si on lit les versets suivants, on va comprendre que Jean explique que tout a été fait par lui et que cette parole est Jésus. Regardez dans le verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Donc, ce que veut dire Jean, c'est que Dieu s'est exprimé à travers Jésus-Christ, qui est la parole. Il est venu sur terre pour parler au nom de Dieu, au nom de son Père, et apporter les paroles, la volonté de Dieu. Un autre texte qui nous parle justement de comment que Jésus est le Logos, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, qui dit « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Mais maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. » Donc aujourd'hui, Jésus, la parole, nous parle à travers son esprit qui est en nous. Voilà pourquoi que la parole de Dieu, dans la Bible, nous parle encore aujourd'hui, qu'elle est vivante. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, et qui va nous révéler les choses de Dieu, les choses du Père, du Fils, Jésus-Christ. Deuxièmement, on voit que justement aussi le Logos signifie ce que Dieu a dit ou à nous dire. C'est la parole de Dieu pour tout le monde, comme on l'a vu auparavant, avec l'exemple, par exemple, du serment sur la montagne. La deuxième façon que la parole dans le au grec veut dire, c'est rhéma. Rhéma est la parole de Dieu pour vous, personnellement. C'est un message que vous recevez pour un moment précis ou une situation précise. Souvent, des fois, on entend justement les chrétiens qui disent « Seigneur, donne-moi une parole rhéma ». Donne-moi une réma, qui veut dire donne-moi une parole pour moi spécifique dans ce que je vis maintenant. On a l'exemple de Matthieu chapitre 4, verset 4. J'ai pris la version second 21 qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » Et la parole, à ce moment-là, dans le grec, c'est réma, qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin, c'est vrai, de pain physique pour se nourrir jour après jour. Mais nous avons surtout besoin de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu jour après jour. Dans le sens, ce n'est pas juste une parole une fois de temps en temps, mais jour après jour, on doit s'abreuver de cette parole de Dieu qui nous parle directement. Lorsqu'on lit justement un texte de la Bible et qu'on le médite, qu'on recherche ce que ça veut dire pour nous personnellement, on regarde ce que ce rhéma veut nous dire personnellement. Et voilà pourquoi qu'on dit que la parole, Dieu parle encore aujourd'hui à travers sa parole, afin de nous encourager dans les temps difficiles que l'on peut traverser. Peut-être par rapport à une question que nous avons, peut-être nous montrer le chemin à suivre lorsque on ne sait pas quelle direction prendre. Vous savez, dernièrement, on vous a parlé qu'on était en recherche d'une voiture et on regardait plusieurs voitures. Puis à un moment donné, on avait trouvé une voiture. Puis on sentait, oui, je pense que c'est le bon modèle. Mais on avait comme un peu une hésitation. On a fait quelques recherches un peu sur le modèle. Et j'ai dit à Seigneur, Seigneur, donne-moi une parole, donne-moi un réma pour moi pour confirmer si c'est la voiture qu'on doit prendre ou pas. Et le lendemain, je prends ma Bible. Et je lis un texte, et le texte veut vraiment clairement me dire la volonté de l'homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pour moi, j'ai ressenti dire, Seigneur, non, ce n'est pas la volonté qu'on achète cette voiture. Dieu a permis qu'on trouve une autre voiture, et là, on était en paix que c'était la voiture que Dieu nous demandait. Donc aujourd'hui, si on désire entendre Dieu nous parler, il faut lire la Bible, il faut la méditer. Il faut aller voir comment que Dieu va nous parler personnellement, spécifiquement. Mais cette lecture doit se faire sous le regard du Saint-Esprit. Parce que si on lit la Bible comme on peut en lire en roman, on risque de ne pas entendre la voix de Dieu. On risque peut-être d'entendre notre propre voix, notre propre pensée qui va dire des choses, au lieu d'entendre la voix de Dieu. Vous savez qu'il écrit même dans la Bible que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Donc si nous ne sommes pas attentifs, on ne va pas apercevoir si on écoute vraiment la bonne voix. Donc, regardons d'autres manières comment que Dieu parle. Il parle par une voix audible. On a l'exemple du jeune Samuel qui entend une voix dans la nuit. Et par trois fois, il va courir vers son maître, Élie, pour lui dire, « Ben voici, tu m'as appelé. » Et chaque fois, il dit, « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et la troisième fois, on sait qu'Élie disait, mais je pense que c'est Dieu qui appelle directement Samuel. Et lui dit, la prochaine fois que Dieu te parle, tu fais simplement dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Éternel, car ton serviteur écoute. On sait que Moïse aussi parlait face à face aussi, avec Dieu comme un ami. On aimerait tous d'entendre Dieu par une voix audible. Et peut-être vous avez déjà entendu des témoignages de gens qui ont entendu une voix audible par rapport à une situation, par rapport à un danger, par rapport à quelque chose à faire. Dieu parle encore par une voix audible. Une autre manière, c'est par des anges. On a justement dans l'Ancien Testament divers exemples de personnes qui ont reçu la visite d'un ange pour leur parler au nom de Dieu, hein, comme Abraham, dont on le voit dans Genèse chapitre 18-19. Qui va lui dire que sa femme Sarah va bientôt tomber enceinte, même si elle a dépassé l'âge de procréer. Josué, dans Josué chapitre 5, où Dieu fortifia Josué pour lui donner des instructions de comment attaquer Jéricho. Dans le Nouveau Testament, on voit comment qu'un ange a aussi visité Philippe, hein, le disciple Philippe dans Acte 8, qui lui annonce de partir dans le désert pour rencontrer un autre dignitaire éthiopien. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Billy Graham qui s'intitule « Les anges, agents secrets de Dieu ». On a ce livre aussi à la bibliothèque, je vous encourage à lire. C'est vraiment un livre qui démontre comment que les anges sont autour de nous, à nous protéger, à nous parler, à nous montrer comment que Dieu envoie ses anges pour nous guider. Je me rappelle aussi l'histoire de Richard et Agathe Ouellet, que vous connaissez aussi, qu'à un moment donné, lorsqu'ils étaient en Haïti, ils ont été enlevés par des brigands, comme malheureusement en ce moment, il y a beaucoup aussi d'enlèvements en Haïti. Et lorsqu'ils ont été libérés, ils ont été dans un hôtel avant de revenir ici au Québec. Et à un moment donné, ils ont entendu des coups de feu. Et à cause de ce qu'ils avaient vécu, Agathe s'est jetée comme sous la table de peur, parce qu'elle revivait justement l'enlèvement. Et à ce moment-là, elle voit un homme venir vers elle, qui parlait ni français ni anglais, qui, je pense, parlait espagnol, lui a tendu son ordinateur. Au-dessus, il y avait le psaume 91 en français. Et en lisant ce texte, Agathe a été comme encouragée. Cette peur par rapport au tir, par rapport à l'album, a complètement disparu. Et ensuite, elle a voulu se retourner pour remercier le monsieur. Elle ne le voyait plus. Elle a demandé aux autres, est-ce que vous avez vu un monsieur qui parle en espagnol? Personne n'avait vu cet homme. Et pour elle, elle disait, c'est un ange qui a été envoyé à ce moment précis. Dieu parle aussi à travers des phénomènes. Hein? On voit donc le buisson ardent avec Moïse. L'écriture sur le mur avec le roi Belshazzar et Daniel, hein? Avec Gédéon aussi, avec la toison aussi, qui est une fois mouillée, puis une fois sec. Encore aujourd'hui, Dieu peut parler de cette façon. Si Dieu est tout-puissant et au-dessus de nous, il n'est pas limité de faire de différentes façons. Une autre manière qui peut-être nous est plus familière, c'est à travers des rêves et des visions. On a l'exemple dans le Nouveau Testament de Joseph, hein, le mari de Marie. Dieu va lui parler plusieurs fois par des rêves pour lui dire de ne pas avoir peur de prendre Marie comme épouse. On le voit dans Matthieu chapitre 1, verset 20. Puis plus tard, il va lui nouveau révéler par un rêve pour dire qu'il faut fuir en Égypte parce que le roi Hérode veut tuer Jésus. On le voit dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Puis plus tard, quand à la mort d'Hérode, il reçoit nouveau par un rêve la révélation qu'il peut retourner en Israël. On le voit dans Matthieu chapitre 2, versets 19 et 20. Donc on voit dans cet exemple de Joseph que Dieu privilège de lui parler de cette façon par des rêves, parce que pour Joseph, c'était une façon qu'il reconnaissait que Dieu lui parlait. On a des personnes autour de nous qu'on sait que Dieu parle par des rêves, par des songes. Il le fait beaucoup aujourd'hui parmi les musulmans. C'est incroyable de voir tous les témoignages de comment que Dieu se révèle par des songes et des rêves à des musulmans. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui est ouvert à ces choses-là, qui est ouvert à entendre la voix de Dieu à travers les rêves. Et Dieu va directement se manifester. Jésus se manifeste directement. Ils disent, les musulmans, « J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus et je sais qu'il est le Fils de Dieu. » Dieu nous parle aussi à travers d'autres personnes. Qu'on soit par avoir la prédication, l'enseignement, Dieu parle et transmet ses indications et sa volonté. Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 qui dit « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole qui nous avait été annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme c'est ce qu'elle était réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité et en vous qui croyez. » Vous avez reçu la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Lorsque justement, au début de la prédication, comme aussi le pasteur Eman l'a fait, on prie, on demande au Saint-Esprit que ce ne soit pas le prédicateur avec sa propre bouche qui parle, mais que ce soit Dieu qui utilise la bouche du prédicateur pour pouvoir parler, afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle, qui nous montre ce qu'on doit faire. Lorsque je prépare aussi les prédications, je vois comment que Dieu me parle aussi dans le sens que je suis encouragé, je suis émerveillé de voir comment que Dieu veut aussi me encourager, veut Dieu aussi me changer, me transformer. Ça peut se faire aussi à travers des personnes qui écrivent des livres. On a important justement de lire des livres. Voilà pourquoi on a une petite bibliothèque. Je vous encourage à lire des livres, de témoignages, des livres de théologie, des livres qui pour développer notre vie chrétienne, pour comment construire une église selon le Seigneur. Ça peut aussi se faire par des personnes à travers de la prophétie, des personnes qui reçoivent des messages de la part de Dieu et qui vont le transmettre à une personne spécifique ou peut-être même à l'église. On voit que dans Romains chapitre 12, verset 6, que la prophétie est répertoriée comme un don de l'Esprit. Il est dit « Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. » Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. On a encore besoin aujourd'hui de véritables prophètes qui annoncent la parole de Dieu, qui donnent les avertissements de Dieu, qui donnent la direction que Dieu veut pour son peuple. Dieu veut parler encore à travers des personnes. Et ça peut être des personnes qui vont recevoir une seule fois des paroles. Peut-être des fois, Dieu va utiliser plusieurs fois cette personne pour parler à l'église ou à une personne spécifique. Il y a aussi justement des paroles de connaissance, des paroles de sagesse qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 qui dit « L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. En autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. » On a besoin encore de demander « Seigneur, donne-nous ces paroles de connaissance. » Donne-nous de ces paroles de sagesse afin de comprendre ce que nous vivons, afin de comprendre où l'Église va, afin de comprendre ce qui se passe dans le monde et ce que tu veux encore nous dire. On a aussi justement des personnes qui peuvent aussi interpréter des langues. On a déjà entendu des paroles comment que justement une personne qui était dans une célébration qui a commencé à parler d'une langue étrangère qu'elle ne comprenait pas. Mais Dieu avait permis à cette personne de parler cette langue parce que derrière elle, il y avait une personne qui comprenait exactement cette parole. Et lorsqu'elle a entendu cette parole, elle a su que c'était pour elle. Donc on voit que Dieu utilise toutes sortes de personnes, et même des fois des non-chrétiens pour nous parler. C'est déjà arrivé même pour moi que Dieu m'a parlé à travers des non-chrétiens pour nous parler, pour nous avertir. On doit simplement être attentif, on doit être aussi disponible afin d'entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Puis il y a aussi les murmures doux et légers. On pourrait dire peut-être que c'est nos pensées ou par notre conscience. C'est la façon peut-être la plus courante que Dieu utilise pour nous parler personnellement. On va prendre un exemple de la parole de Dieu, d'un homme qui a reçu un mandat très précis, mais qui a eu besoin que Dieu lui parle par un murmure doux et léger. Cet homme qui est l'un des plus grands prophètes de la Bible, c'est Élie. On va voir que souvent, on ressemble un peu à lui. Donc, regardons un peu le contexte. On sait que Élie a reçu le mandat de Dieu de démontrer au peuple d'Israël qui était vraiment dans le grand péché, corrompu par les idoles étrangères avec Baal, qui était le véritable Dieu. Donc, il a convoqué le roi et tout le peuple à venir sur une montagne et a aussi pris 450 prophètes de Baal. Et là, il a démontré pour dire, OK, celui qui va faire descendre le feu du ciel, c'est celui qui est le véritable Dieu. Et on sait que les prophètes ont essayé durant toute une matinée de faire des incantations, faire toutes sortes de choses, mais rien ne s'est passé. Et on voit comment que Élie a construit aussi un hôtel et comment qu'il a mis plein aussi d'eau autour et qu'il a demandé le feu puissant de Dieu et comment que le feu est descendu. Ensuite, on sait aussi que Dieu avait dit à Élie de prier pour intercéder pour que la pluie revienne après 3 ans et demi de sécheresse. Et on voit comment que Élie a intercédé et qu'à un moment donné, la pluie est arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe après? Normalement, Élie aurait dû être tout plein feu, plein d'ardeur, plein de foi, avec tout ce que Dieu avait démontré par sa puissance. Alors, ouvrons notre Bible dans 1 Rois, chapitre 19, versets 1 et 4. 1 Rois, chapitre 19, versets 1 et 4, on a demandé à notre sœur Lise de lire cela pour nous.
Dans la version Louis II, fuite d'Élie au désert. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Imaginez si vous étiez justement à la place d'Élie, de faire ce miracle, de faire descendre le feu du ciel, puis de faire tomber la pluie après la sécheresse. On serait tous égardés, plein de foi d'assurance que pour continuer notre ministère. Mais là, Élie a eu peur de la reine Jézabel. Il perdit courage, il était anéanti. Cette semaine, j'étais dans une rencontre pastorale dans une retraite spirituelle avec d'autres pasteurs et leaders. Et j'ai partagé un peu ce texte et j'aurais dit, Élie a eu peur d'une femme. Et tout le monde s'est éclaté de rire par rapport à pourquoi qu'Élie a eu peur d'une femme. Mais c'est la réalité. Élie a eu peur de la reine, d'une femme, et il s'enfuit dans le désert et demande même la mort. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce que Élie a vécu, c'est une dépression. Hein? Il vit quelque chose de bien, puis à un moment donné, pauvre, tout tombe, il veut même la mort, il ne veut plus vivre, il tombe dans une dépression. Alors, est-ce que ça vous arrive, lorsque vous vivez quelque chose de merveilleux avec Dieu, que Dieu accomplit de belles choses à travers vous. Puis tout à coup, l'ennemi vient vous décourager par une situation difficile, une épreuve, un problème, et on perd courage, on est anéanti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si on lit la suite du récit dans le chapitre 19, vous allez voir que par deux fois, Dieu envoie des anges justement pour encourager Élie à manger. Élie se lève, il mange, puis il se rendort. Il est vraiment dans la déprime. Élie préfère rester dans son état dépressif. Mais Dieu avait un plan pour Élie. Et avec la nourriture que Dieu va lui donner, il va faire un trajet pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. On le voit dans le verset 8. Il se leva, mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous savez combien de ça représente de kilomètres? 500 kilomètres. Élie, avec la nourriture de Dieu qu'il lui a donnée, a permis de faire 500 kilomètres à pied. C'est incroyable quand même, hein? Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi que Dieu voulait que Élie vienne jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu lui parler là qu'il était dans le désert? Dieu avait un rendez-vous spécial avec Élie. Et il voulait que ce soit sur la montagne de Dieu, où Dieu avait déjà parlé avec Moïse. Dieu donna toutes les forces à Élie pendant 40 jours pour qu'il puisse marcher, pour qu'il puisse, dans ce temps-là, revoir qu'est-ce qu'il vivait, pour peut-être sortir un peu de ce temps de dépression qu'il vivait. C'est possible que lorsque nous, on ne va pas très bien, que des fois nous sommes découragés, que Dieu veut avoir un rendez-vous spécial avec nous, dans un endroit précis. Peut-être c'est vrai que si Élie serait resté dans le désert, proche d'Israël, peut-être qu'il aurait eu crainte, peur que la reine Jézabel le trouve et le tue. Mais à 500 kilomètres, il se dit, c'est peut-être plus sûr. Ça arrive parfois que Dieu, justement, que nous sommes découragés, que Dieu veut justement ce rendez-vous spécial avec nous. Dieu veut nous donner la force de pouvoir aller de l'avant. Dieu va nous donner la nourriture, peut-être physique, mais aussi de la nourriture spirituelle, pour permettre de continuer de marcher, pour nous permettre d'aller dans cet endroit spécifique, dans ce temps où on va vivre des choses avec lui. Ça arrive que Dieu, justement, va nous donner de demander de nous sortir de notre milieu de vie, de prendre un temps de pause, d'arrêt, parce qu'il désire prendre du temps avec nous. Voilà l'importance, justement, des retraites, l'importance, des fois, de prendre, même si c'est une demi-journée, puis de sortir, de s'isoler, d'aller dans un endroit où on va entendre la voix de Dieu, puis dire, Seigneur, je suis à ton écoute. Je ne suis pas dans mon milieu de travail, je ne suis pas chez moi où je peux être dérangé, je ne suis pas dans mon bureau, je suis ailleurs parce que je veux prendre le temps avec toi. Et là, on voit que Dieu va poser une question spécifique à Élie, au verset 9. Là-bas, il entra, donc Élie, entra dans la grotte, il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie? Que viens-tu faire ici, Élie? » C'est une drôle de question quand même. C'est Dieu qui lui dit, « Va sur la montagne d'Horeb, je vais te donner la force pour que tu puisses faire 500 kilomètres. » Et après arriver à la montagne, Dieu va lui demander, « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, Élie? » Et on voit la réponse désespérée d'Élie au verset 10. Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause éternelle, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Un peu comme, « Seigneur, j'ai défendu ta cause devant tout Israël. Ils ont massacré tes prophètes et je suis le seul qui reste. » Waouh, on voit comment Élie est vraiment déprimé. Devant tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu avec la puissance de Dieu qui s'est manifestée devant lui, tous les miracles qui ont été faits à travers Élie, il est capable de dire qu'il est seul, qu'Israël a abandonné l'alliance de Dieu. Alors, est-ce possible que lorsque nous-mêmes, quand on voit que tout est noir devant nous, quand nous avons l'impression d'être tout seuls, que tout le monde est contre nous et que rien ne va plus, et Dieu peut nous poser cette question. Tu viens dans un endroit retiré, tu viens prendre un temps avec moi, mais que viens-tu faire ici? Que viens-tu chercher? Dieu avait besoin de ce temps spécial avec Élie seul. Lui qui était un grand prophète, mais qui était tombé bien bas dans sa vie. Dieu a besoin que des fois on se retire quand il nous semble que rien ne va plus, afin de passer du temps avec Dieu, afin de nous encourager, nous remettre sur pied. Mais il va toujours nous poser la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens chercher? Et là, on voit que justement, Dieu lui demande de sortir de sa grotte et de se tenir sur la montagne. Hein. On dit des fois, hein, quand un homme est dans sa grotte, c'est qu'on n'entend rien. Hein. Des fois, ma femme me dit, des fois, il me dit, Philippe, tu es dans ta grotte, je te parle, puis tu ne m'entends pas. On a besoin des fois de sortir de notre façon d'être ou comme ça, ou dans nos idées, nos pensées, pour pouvoir entendre ce que Dieu veut nous dire. En Rois, chapitre 19, versets 11 à 13, on va demander à notre sœur Lise de lire ces versets pour nous. En Rois, chapitre 19, versets 11 à 13.
L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Amen.
Merci. Dieu s'est révélé non pas dans un vent violent, non pas dans un ouragan, non pas dans un feu. Trois façons pour démontrer la puissance de Dieu. Mais il n'avait pas besoin de connaître Dieu de cette façon. Il avait déjà vu faire dans le passé, quand il était avec justement sur la montagne avec les 450 prophètes de Baal. En plus, avec sa dépression qu'il vivait, s'il aurait eu des tremblements ou d'ouragans, ça aurait peut-être lui fait encore plus mal à la tête. Dieu est apparu dans un souffle léger et doux, un murmure doux et léger, comme un bruissement. Quelque chose de juste perceptible, mais Élie a su que Dieu était là. Lorsqu'on vit justement des choses difficiles, on voit comment que Dieu veut se comporter avec nous. Il veut nous démontrer non pas dans sa toute-puissance, mais dans une présence qui est réconfortante, qui est douce, que l'on peut comprendre. Et là, on voit la même question qu'il pose avant. Que viens-tu faire ici? Et encore une fois, Élie répète la même chose dans les versets suivants qu'on n'a pas lus. C'est comme Élie n'a pas compris encore ce que Dieu voulait lui montrer. Dieu voulait lui montrer où il peut dévoiler sa puissance devant les autres d'une façon incroyable. Mais il peut aussi se démontrer par des murmures doux et légers. Élie voulait rester dans ce temps de dépression. Il voulait laisser ce temps parce que si vous regardez dans les versets suivants, il va dire que la même chose, je suis le seul qui est resté. Dieu voulait qu'il lève les yeux. Dieu voulait le faire sortir de sa déprime pour lui dire, mais écoute, je suis là. Que viens-tu chercher là? Est-ce que tu viens chercher mon réconfort, ma présence, ou est-ce que tu viens juste pour chialer, pour dire que tu veux la mort, que rien ne va plus dans ta vie? Il reste dans une situation, une attitude défaitiste, sans espoir. Mais Dieu va lui parler et lui redonner des forces pour aller où? Regardez, verset 15. L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu auras Hazaël comme roi de Syrie. » Imaginez, Dieu vous fait parcourir 500 kilomètres à travers le désert pour se révéler à vous. Et il vous dit, « Retourne sur tes pas pour faire 400 kilomètres jusqu'à Damas. Retourne sur tes pas. » Seigneur, tu me fais faire venir ici, là, pour que je sois avec toi, puis tu me fais revenir où j'étais avant. Dieu n'avait pas fini avec Élie. Voilà pourquoi il lui dit de retourner sur ses pas. Lorsqu'on passe des temps difficiles, d'incertitude, de questionnement, peut-être même de dépression, le Seigneur peut nous retirer pour un certain temps. Voilà pourquoi que même, j'ai connu moi des chrétiens qui ont vécu la dépression. Un de mes meilleurs amis en Suisse a vécu un temps de dépression et tout le monde lui disait, prie le Seigneur, puis le Seigneur va te sortir de la dépression. Prends tel médicament, puis tu vas te sortir. Mais cela a pris quand même une année et demie pour sortir. Mais il a dit, ce temps-là, j'ai eu besoin de ce temps-là pour me recentrer sur Dieu. Dieu a permis ce temps, ça a pris plus de temps que je pensais. Il a utilisé toutes sortes de médicaments, toutes sortes de choses qui lui ont aidé, c'est sûr. Les prières aussi. Mais ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est ne pas nous laisser là où nous sommes. Voilà pourquoi il nous dit, retourne sur tes pas. J'ai encore besoin de toi. Je veux que tu sortes de ce temps de déprime. Je veux que tu sortes de ton temps d'incertitude, de peur, parce que j'ai encore quelque chose à faire avec toi. Je vais te redonner des forces. Tu vas goûter à ma sainte présence. Tu vas goûter à une présence réconfortante et qui va t'aider à revenir sur tes pas et à continuer l'œuvre que je te demande de faire. Dieu va nous renvoyer sur le terrain parce qu'il a encore besoin de nous. Il veut encore qu'on puisse le servir et faire de grandes choses avec nous dans le royaume de Dieu. Dieu nous encourage et comme il a dit à Élie, il n'était pas tout seul. Il rappelle dans le verset 18 que d'autres Israélites n'avaient pas adoré Dieu, n'avaient pas adoré Baal. Au chapitre jugement 19, verset 18, parole de vie dit, « Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui ne sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal et qui n'ont pas embrassé ses statues. » Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Même si nous sommes un petit nombre devant les multitudes autour de nous, Dieu nous voit et va agir avec ce petit nombre. Alors oui, Dieu veut nous parler de différentes manières, selon nos circonstances, selon où nous en sommes dans notre vie, parce qu'il veut partager son cœur avec nous. Il veut nous encourager à continuer de la course de la vie et à marcher en avant en comptant sur lui. Alors simplement, courons notre tête. Et qu'on puisse dire au Seigneur, tu connais exactement où je suis actuellement dans ma vie. Dans un temps où je vis des belles choses, où je vois la puissance de Dieu se manifester, un temps où peut-être je me pose des questions, je suis incertain, j'ai peur, je ne sais pas très bien où il faut aller. Peut-être un temps où je vis des épreuves, la maladie, la souffrance, la déprime peut-être. Dieu veut nous dire qu'il a un plan pour nous. Dieu veut nous amener sur la montagne. Dieu veut nous amener à la rencontre de lui. Nous devons prendre ce temps, comme ce texte que nous avons lu, lorsque Moïse est monté sur la montagne. Pendant 6 jours, il était dans la présence de Dieu, mais Dieu n'avait pas parlé. C'est seulement le 7e jour que Dieu a commencé à s'adresser à Moïse. Et là, Moïse monta plus haut sur la montagne, et il resta pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Dieu veut cette rencontre avec nous, Dieu veut nous parler. Dieu peut nous parler tout de suite. Dieu peut attendre un temps parce qu'on n'est pas prêt, parce que peut-être on regarde trop à nos problèmes, on regarde peut-être trop à ce que nous vivons. Alors Dieu veut nous transformer. Dieu veut peut-être nous faire marcher comme Élie pour qu'on puisse regarder à autre chose que peut-être nos problèmes, nos situations. Dieu veut peut-être nous dire encore aujourd'hui, Philippe, Nicole, Antoine ou d'autres noms, que viens-tu faire ici à l'église? Que viens-tu faire dans ma présence? Qu'est-ce que tu viens rechercher? Est-ce que tu viens me rechercher vraiment personnellement? Est-ce que tu viens chercher quelque chose qui va t'encourager, qui va te permettre d'avancer avec moi? Est-ce que tu veux entendre ma volonté que j'ai pour toi? Lorsque nous sommes disponibles, Dieu va nous parler de différentes manières. Dieu va se révéler pour que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions ensuite obéir, agir selon ce qu'il nous a dit. Comme avec Élie, Va, retourne sur tes pas. J'ai pris un temps avec toi. Je t'ai parlé. Maintenant, vas-y. Agis, obéis. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Merci, Jésus. Merci. Oui, Jésus, agis. Seigneur, on te remercie pour ce rappel, comment que tu parles de différentes manières. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'il n'y a pas une seule façon que tu parles. Tu peux utiliser d'autres personnes, tu peux utiliser des rêves, tu peux utiliser la voix audible, tu peux utiliser ta parole, tu peux utiliser des phénomènes. Et on te remercie, Seigneur, parce que nous voyons comment que tu es un Dieu personnel, un Dieu qui veut s'approcher de nous, là où nous sommes dans notre vie. Nous voulons te remercier, Seigneur, à travers l'exemple d'Élie, comment, Seigneur, tu as fait de tellement de grandes choses à travers ce prophète, mais qui avait besoin à un moment donné de simplement de s'arrêter, de regarder, de ne pas s'appuyer sur ses propres forces, de ne pas craindre l'ennemi qui veut le tuer, l'anéantir, mais de rester sous ton regard. Seigneur, tu nous connais tous personnellement. Tu veux tous nous parler, encore ce matin. Tu connais peut-être nos craintes, nos peurs, nos incertitudes. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin, te dire qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin de passer ce temps de qualité avec toi, qu'on soit disponible pour entendre, écouter ta voix. Alors, Seigneur, permets encore aujourd'hui, permets encore dans ces deux prochains jours que tu puisses nous parler. À travers ta parole, lorsqu'on la médite, à travers d'autres façons, et que nous puissions être encouragés à marcher sur tes pas, à continuer l'œuvre que tu nous as demandée, à continuer d'aller dans le combat qui se passe devant nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante. Nous te remercions parce que tu nous parles, tu nous édifies, tu nous donnes des rémas, tu nous donnes des paroles spécifiques pour nous, pour nous encourager, pour nous donner une direction. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas dire, Seigneur, on ne t'entend pas. Nous ne voulons pas partager à un autre frère et sœur que dire que je n'entends pas Dieu, que je n'arrive pas à déceler sa voix, que je n'arrive pas à comprendre ce que Dieu veut. Aide-nous, si c'est le cas, de te remettre, de passer du temps avec toi, de simplement d'enlever tout obstacle qui ne nous permette pas d'entendre ta voix. Permets encore que dans cette année 2023, on puisse encore mieux entendre, qu'on puisse voir que tu accordes d'autres façons que tu veux nous parler, d'autres manières, afin qu'on puisse être encouragé, fortifié en tant que personne, en tant que chrétien, mais aussi en tant que disciple du Seigneur, en tant qu'Église, afin que nous puissions aller dans ta voie, que nous puissions entendre ta volonté et marcher dedans et obéir. Alors, Seigneur, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce temps de célébration, nous désirons, Seigneur, que lorsque nous allons quitter cet endroit, tu continues d'être là avec nous, que tu continues de nous entourer, que tes anges sont là pour nous permettre d'avancer, que ta grâce et ta paix, Seigneur, soient sur nous, que ta bénédiction repose aussi sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour, et qu'on puisse continuer de rester dans ta paix et dans ta joie que tu nous donnes. Merci pour tout, merci pour toi. À toi seul la gloire, ô Éternel. Merci. Amen. Amen.